Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et un grain à moudre que nous avons décidé de consacrer à l'Allemagne ce soir suite à l'attaque meurtrière perpétrée hier à Berlin. Vous l'avez entendu dans le journal, le camion qui a surgi sur le marché de Noël hier a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés au dernier bilan. La chancelière Angela Merkel a parlé dans la journée d'une attaque terroriste contre son pays et a promis de punir ce crime durement. L'auteur que l'on pensait avoir arrêté ce matin serait en réalité toujours en fuite. Aucune certitude sur son identité ni sur ses motivations pour le moment. Mais l'onde de choc est déjà énorme sur le débat politique allemand, d'autant que le mode opératoire rappelle fortement l'attentat de Nice, qui avait été, lui, revendiqué par l'État islamique. Alors, en attendant de connaître toutes les circonstances du drame, plusieurs questions se posent. En premier lieu, quelle réponse apporter à la violence et comment ne pas céder à la peur? Et puis, faut-il s'attendre à des répercussions sur la politique d'accueil des réfugiés? Aucun lien établi pour le moment, mais le parti d'extrême droite AfD fait monter la pression sur la question de l'immigration. Un sujet hypersensible en Allemagne à 10 mois des législatives auxquelles Angela Merkel a déjà annoncé sa candidature. Comment l'Allemagne peut-elle faire face aux attentats ? Deux invités pour en discuter ce soir. Hélène Millard de la Croix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Allemagne contemporaine, professeur à la Sorbonne. Vous avez co-dirigé notamment l'ouvrage « L'Allemagne entre rayonnement et retenue ». C'est un ouvrage sur la politique étrangère de l'Allemagne, paru cette année aux presses du Septentrion. À vos côtés, Assiem El-Difraoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et spécialiste du djihadisme. Vous avez notamment fait paraître dans la collection « Que sais-je ?» au PUF « Le djihadisme ». C'était également cette année, novembre 2016. Et puis notre troisième invité par téléphone, Michaela Wiegel, bonsoir.
Bonsoir
Michaela, vous êtes journaliste correspondante en France du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alors ce matin, Assiem El-Difraoui, vous étiez chez nos collègues de France Info et on vous a entendu appeler à la prudence sur la manière de qualifier l'attaque qui a été perpétrée hier soir à Berlin. De son côté dans la journée, je le disais, Angela Merkel, elle les a qualifiés d'attentats terroristes. Est-ce que ce soir, vous reprenez ce qualificatif d'attentat terroriste ?
Pas encore. C'est-à-dire, c'est beaucoup trop tôt de juger qu'est-ce que c'était exactement. On sait que le mode opératoire ressemble à ce que le djihadiste souhaite, qu'il conseille pour s'aimer la terreur en Europe. Mais pour moi, ce soir, c'est également pas très important qui a commis cette atrocité. Ce qui m'importe, moi, c'est que malheureusement, il y a un climat de peur qui s'est instauré dans nos sociétés européennes, allemandes ou françaises. Et ça, c'est réellement le fait de ces attaques djihadistes. Donc, Daesh a remporté d'une certaine façon une bataille en instaurant ce climat de peur, de polarisation contre laquelle il faut lutter avec des visions fortes de nos pays, des visions fortes d'une Europe qui doit aller à l'avance parce que le climat de peur et le terrorisme, on ne va pas le combattre avec des mesures sécuritaires. Il faut le combattre surtout aussi avec des idées et avec une politique qui attaque le djihadisme à ses racines, à savoir les inégalités socio-économiques, le sentiment d'exclusion. Il faut aussi lutter contre cette double polarisation, et pas uniquement dans une polarisation dans nos sociétés où les populistes disent qu'ils représentent le peuple contre les élites, mais aussi cette polarisation entre l'Europe et le sud de la Méditerranée, où on a l'impression que ces Syriens, ces autres Arabes sont que des barbares, parce qu'on voit uniquement des images de la destruction, de la misère et tout ça.
En tout cas, le fait que l'idée de l'attentat terroriste soit dans toutes les têtes avant même que l'on ait les informations qui puissent vraiment le confirmer, ça, c'est un signe que Daesh a déjà gagné une bataille, comme vous le disiez, Hélène Millard de la Croix. Vous partagez ce constat ?
Écoutez, en effet, oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de signaux et de codes. Il y a une espèce de langage qui s'est instauré avec des codes qui sont envoyés, une reprise donc de mode opératoire. Là, le camion n'est pas blanc, mais il est noir. Il se précipite dans une foule qui est une foule de familles, de gens qui sont contents de sortir du travail, ils vont boire un vin chaud, on est bien entre soi, il y a des enfants. Donc, en effet, c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est une grammaire assez simple, la sémantique est très 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 réduite. contacts. Mais l'idée est bien évidemment de faire naître des associations d'idées et surtout le mot premier de terrorisme, c'est terroriser les gens, c'est de leur faire peur et de faire naître une réaction irrationnelle face à une situation qui n'est pas concevable, pas compréhensible, parce que c'est vrai que dans l'échelle de valeurs et notre monde, cette période avant Noël est une période plutôt joyeuse. En Allemagne, on fête beaucoup l'avant, c'est-à-dire les 4 semaines avant Noël. Alors c'est plus ou moins chrétien, mais c'est surtout un moment où il fait nuit tôt le soir, on met des lumières, on est bien ensemble, on pense aux bons sentiments. Donc intervenir à ce moment-là avec ce code, ce langage extrêmement simple, l'objectif c'est très clairement en effet de semer la peur et d'obliger les gens soit à changer leur mode de vie, soit beaucoup plus, comme vous l'avez dit avec justesse, à se polariser, c'est-à-dire à avoir ce type de réflexe et imaginer qu'immédiatement derrière il puisse y avoir un acte motivé religieusement et qui oppose les communautés à l'intérieur de nos sociétés.
Michael Avigal, c'est particulièrement difficile pour les gouvernants et là, dans ce cas présent pour le gouvernement allemand, de mettre des mots, de donner du sens à la violence quand la violence en elle-même est difficile à expliquer et qu'on n'a pas assez d'informations pour en donner les causes.
Alors, je crois que la réaction du gouvernement a été très responsable, c'est-à-dire dans un premier temps où vraiment il y avait encore un grand doute, est-ce qu'il s'agit éventuellement d'un accident, puisqu'on n'avait pas encore entendu les témoignages, la police était au début de son enquête. Tout le monde, tous les responsables politiques étaient prudents et ont refusé, à la différence de ce parti d'extrême droite que vous venez de citer, qui a tout de suite parlé d'un attentat terroriste islamiste, et en plus qui a mélangé cela avec des réfugiés. Les gouvernants allemands ont dit, on se prononce pas. Mais là, à l'heure où nous parlons, effectivement, moi je me tiendrai vraiment à la sémantique de la chancelière, de notre ministre de l'Intérieur, qui ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'un attentat. Ça ne fait plus de doute, c'est d'ailleurs dans toutes les lettres que le gouvernement a reçues, aussi bien François Hollande qui vient de rappeler la chancelière, que un peu de partout dans le monde on parle d'un attentat. Donc je crois le caractère non accidentel ne fait plus de doute à l'heure où nous parlons. Alors après, nous entrons comme vous en France dans une année électorale et là effectivement l'exploitation politique a déjà commencé.
On va y venir. Racine, elle dit Fraoui, vous vouliez réagir.
Moi, je trouve le calme de la plupart des politiques allemands louable, c'est très bien. En même temps, je trouve qu'ils ne sont pas assez clairs. Moi, je n'implorais pas le mot guerre, mais pour moi, il est évident qu'on est dans un conflit. Dans un conflit long terme. Et ce n'est pas un conflit clash de civilisation. C'est un conflit entre des gens qu'on nomme djihadistes, c'est une idéologie sectaire qui a de causes multiples, et cette conflit va perdurer. Et ça va être un conflit extrêmement difficile. C'est un conflit qu'on va mener, ou être obligé de mener idéologiquement, socio-économiquement, malheureusement aussi militairement, mais ça va être quelque chose qui va durer des décennies.
Et vous voulez dire que les gouvernements ne disent pas assez explicité qu'on est dans ce conflit.
Non, c'est pas explicité, donc c'est toujours on est choqué par un attentat. Moi, j'ai moi-même l'impression que ça devient extrêmement répétitif nos réactions, hein, parce que les attentats vont pas s'arrêter si on s'attaque pas aux racines de ce mal qui s'appelle djihadisme. Et là, il faut être très clair. Il y a cette dimension militaire qui va déjà durer. Chaque fois, politiques sont annoncés leur succès dans la lutte contre le djihadisme, la libération de Timbuktu, la mort de Ben Laden, bientôt la chute de Mossoul ou la fin de ces pseudo-califats. Mais ça ne va pas résoudre tous ces problèmes que cette idéologie du djihadisme pose. Il faut aussi vraiment préparer nos sociétés au fait que ça va durer très très longtemps et que, encore une fois, ce n'est pas un conflit entre nous et les autres, nous les Européens contre le sud de la Méditerranée, ou entre chrétiens, entre musulmans. Il y a quand même un adversaire très spécifique, et c'est sont ces différentes organisations djihadistes. Après, on a aussi souvent tendance à réduire le terrorisme djihadiste à Daesh, mais il y a des douzaines de groupuscules ou de groupes, Al-Qaïda au Yémen, qui est en train de monter en puissance à nouveau. Donc, je pense les politiques sont pas très honnêtes avec comment nommer le phénomène, comment nommer le conflit, sur la durée de ce conflit, et ce qu'il faut faire. Une chose que le ministère de l'Intérieur... les finances allemandes, elle a soulevé à un moment donné, c'était lucide, mais il n'y avait jamais, c'était jamais suivi. C'était un plan Marshall pour le sud de la Méditerranée. Nos voisins du sud de la Méditerranée, qui sont réellement nos voisins dans ce monde globalisé, ils ont besoin de notre aide d'une Europe unifié avec une vision très claire. Sinon, cette horrible chose, cette hydra du djihadisme va nous poursuivre très très longtemps.
Michael Avigal, est-ce que vous partagez cette impression que les termes du débat ne sont peut-être pas posés assez clairement, comme le dit Hassem El Ifraoui, que nos dirigeants devraient davantage dire dans quel type de conflit nous nous trouvons et qui est notre ennemi, si je vous comprends bien, Hassem El Ifraoui? Michael Avigal.
Alors, moi, j'avoue que je trouve ça un peu contradictoire, si j'ai bien entendu au départ. On devait douter du caractère terroriste de ce qui s'est passé à Berlin. Et maintenant, il faut que nos politiques déclarent ouvertement que nous sommes en guerre. Alors, effectivement, moi, je trouve plutôt louable que les autorités allemandes, en absence de coupables identifiés, puisqu'il y a des grosses doutes sur la personne qu'on a sur un témoignage incarcéré. On ne sait pas si c'était vraiment lui qui a conduit le camion. Et en absence donc de savoir qui a commis cet attentat, je trouve que c'est plutôt rassurant que Berlin ne commence pas à parler de guerre et de parler d'un plan Marshall pour la Méditerranée. Parce que imaginez que ce soit quelqu'un de l'extrême droite qui ait commis, effectivement, Hélène Delacroix vient de le mentionner, on a l'impression que le schéma du procédé correspond plus aux recettes de l'État islamique, mais n'empêche, à l'heure où nous parlons, nous ne le savons pas qui était la personne qui a, et en absence aussi de revendication d'ailleurs, on ne sait pas qui était la personne. Donc moi, je trouve que ce n'est absolument pas le moment aujourd'hui de parler, de reprocher aux politiques de ne pas être clair. Ce serait même une aberration.
Alors, on va laisser Hassem El Ifraoui préciser sa pensée.
Oui, je pense... Peut-être c'est une malentendu ou c'est peut-être une mécompréhension, je ne sais pas. Pour moi, il est évident qu'on est dans un conflit et j'ai jamais soulevé le mot guerre, parce que le mot guerre, ça implique encore autre chose qu'il y a entre États et tout ça. Mais dans ces conflits, il n'est pas très important si cet attentat aujourd'hui était réellement commis par des djihadistes. C'est-à-dire, le conflit, il est là. Il y a des douzaines d'attentats en Europe, des centaines dans le monde arabe. Il y a un conflit qui a tué des centaines de milliers de Syriens, voire des dizaines de milliers de Libyens, etc. Donc, ce conflit, il est présent. Et notre formatage, et c'est ce qu'on a essayé de souligner tout à l'heure, est déjà de penser que c'est un autre attentat de Daesh. Donc, ça démontre que ce conflit a laissé des traces. Et on n'est pas très clair, les politiques ne sont pas très claires en expliquant cette durée du conflit. Moi, je ne vois pas un attentat de manière isolée, comme un événement isolé. Ça s'inscrit dans un contexte géopolitique, social, sociétal en Europe, qui est clairement dominé par cette lutte, on peut s'appeler, contre le djihadisme. Donc, il ne faut pas réduire ça à une actualité isolée. C'est là où je veux dire, cette lutte, ce conflit va nous poursuivre, il faut extrêmement clair là-dessus.
Hélène Mire Delacroix, votre avis sur cette question, à quel point on peut relier ce qui s'est passé hier soir à un contexte beaucoup plus général qui ne touche pas que l'Allemagne, évidemment, et puis évidemment, on pense aussi aux autres attaques dont avait été l'objet l'Allemagne, notamment cet été, notamment en Bavière.
Ouais, je pense que si on veut juger clairement la communication politique, parce qu'il s'agit aussi en particulier de ça, il faut bien distinguer entre un temps court et un temps moyen ou long. Là, dans le temps court, j'aurais tendance à partager l'avis de Michael Avigal. officiel, de dire pour l'instant, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas aller plus loin que les éléments que l'on connaît, et il ne faut pas non plus flatter les bas instincts. Et puis surtout, il y a un certain nombre de précédents. Il y a à peu près 6 mois, quand l'été dernier, il y a eu plusieurs attaques en Bavière, dont une qu'on avait immédiatement dans les différents médias qualifiée d'attentat terroriste, probablement islamiste. Il s'est avéré que le jeune homme qui avait donc assassiné plusieurs autres jeunes, tous plutôt d'ailleurs réfugiés issus soit d'ex-Yougoslavie, soit de l'autre côté de la Méditerranée, était en fait un garçon plutôt déséquilibré et plutôt tendant vers l'extrême droite.
C'est dans un centre commercial.
Un centre commercial. Donc je pense qu'il y a dans le temps court une prudence qui est de bon aloi pour éviter précisément de donner du feu, plutôt du carburant à tous les simplistes et les populistes. En revanche, l'autre question qui est d'expliquer aux populations qu'il s'agit d'un conflit de plus longue haleine, qui va donc demander un effort collectif, un effort de vigilance, un effort de sang-froid, ça je pense que c'est quelque chose qui va venir. Simplement, là je voudrais insister, c'est que nous sommes ici en France, avec déjà, hélas, presque 2 ans, ça va faire 2 ans, l'attentat de Charlie, 2 ans d'expérience d'une société qui a été confrontée à ce type de violence récurrente, avec un nombre de morts importants, et progressivement la mise en place de mesures de plus en plus visibles de la présence policière, de soldats patrouillant, chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans. Alors, la population allemande, pour l'instant, a été entre guillemets épargnée, et je crains, n'est pas prête à entendre très vite ce que vous êtes en train de leur dire, c'est-à-dire que ça va être grave, ça va durer longtemps, il va y avoir encore beaucoup de morts.
Ouais. Alors, est-ce qu'il existe un...
Ce qui m'importe là-dedans, c'est quand je dis c'est un lutte et un conflit, je ne parle pas de ces choses sécuritaires qui sont souvent de pur affichage. Là, tout à l'heure, je vais prendre un train vers Bruxelles, Thalys, donc côté français, quand on part, on fouille les bagages, à Bruxelles, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment la politique politicienne pour assurer une population. L'état d'urgence en France, est-ce que c'est des bonnes réponses? Il faut vraiment nommer des choses. Et moi, j'essaye de nommer des choses sans tomber dans une logique belliqueuse et sécuritaire. Mais si on nomme pas ces choses, pareil, il faut nommer vraiment le facteur qui contribue à la montée du populisme en Europe et tout ça. J'ai l'impression, vraiment, la politique... agit d'une manière, comme vous dites, comme historienne, d'une manière très courte durée, pour des gains très rapides, sans vraiment préparer une société aux grands enjeux. Peut-être on ne devrait pas appeler ça conflit, mais le djihadisme et la montée de l'extrême droite, c'est des enjeux considérables qui peuvent vraiment faire souffrir des générations à venir.
Alors les autorités... Allemandes ont annoncé qu'elles n'allaient pas relever le niveau de sécurité après ce qui s'est passé hier soir et approuvé par Hassem El-Khelaifi. Est-ce qu'il existe en Allemagne l'équivalent de ce qu'on appelle en France l'état d'urgence, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des Landes peut-être, et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que un débat arrive en Allemagne sur la manière d'équilibrer mesures de sécurité et respect des libertés publiques, Michael Avig?
Oui, alors pour répondre tout d'abord à votre deuxième question, effectivement, on va avoir le débat. Ce débat, il a commencé dans la demi-heure après ce qui s'est passé sur le Breitscheidplatz. Alors, en revanche, la question sur l'état d'urgence, elle se pose pas de la même façon. Nous n'avons pas le droit, par exemple, en dehors des catastrophes naturelles, d'employer des militaires à l'intérieur. Donc déjà, ce qui s'est fait en France, c'est pas envisageable en Allemagne, au moins de changer complètement la législation. Et je pense d'ailleurs, les Allemands sont beaucoup plus vigilants sur le respect des droits fondamentaux, par exemple la privation des libertés telle qu'elle est pratiquée sous l'état d'urgence, notamment pour ceux qui sont assignés à résidence, est vue d'un œil assez critique. Donc je crois qu'on n'est pas prêt à payer le prix d'une diminution des libertés individuelles pour la sécurité pour l'instant.
Hélène Mire de la Croix, vous vouliez apporter une petite précision.
Oui, je voulais apporter une petite précision sur la législation sur l'état d'urgence qui date des années 60 et qui à l'époque avait provoqué beaucoup de protestations et même le mouvement qui a amené à 68 en Allemagne et qui en effet s'élevait contre un ensemble législatif qui prévoyait en effet de donner à l'exécutif un certain nombre de pouvoirs spéciaux, enfin exceptionnels, dans le cas de catastrophes naturelles, Michaela Vigel a tout à fait raison, mais aussi de guerres civiles, de situations d'extrême urgence, parce que si l'Allemagne fédérale ne s'était pas donné cet attirail-là, c'était encore les alliés qui gardaient cette possibilité. Donc, sur le papier, il est possible que l'Allemagne se dote d'un dispositif un peu liberticide, mais voilà, liberticide, c'est le problème. Moi, toute cette dernière année, j'ai été en permanence interrogée par des Allemands sur l'état d'urgence en France et sur le caractère inacceptable de limiter des libertés individuelles. Et j'ai toujours rencontré une relative incompréhension pour ce que les gens disent en France, c'est-à-dire, moi, là je cite, nous, les Français moyens, moi ça ne me dérange pas trop qu'il y ait des mesures, de, par exemple, de perquisition nocturne, si je n'ai rien à me reprocher, point, et fermer les guillemets. Et ça, c'est vrai qu'il y a, un certain malentendu entre les Français et les Allemands sur ce point, sauf que on peut supposer quand même que la population allemande se mette à demander un peu plus de sécurité, peut-être alors, là on pourrait être d'accord ou pas, de visibilité de la sécurité. Mais ça aussi c'est une différence avec la France. En Allemagne, on n'aime pas que la force publique manifeste un aspect guerrier, si vous voulez. Le policier, c'est quelqu'un de calme et qui parle aux petits-enfants.
Alors une des questions qui se pose ce soir aussi, c'est de savoir quel impact va avoir l'attentat d'hier soir à Berlin sur la question de l'accueil des réfugiés en Allemagne. Il n'y avait évidemment aucun lien qui n'a été fait pour le moment dans les motivations et de l'auteur, puisqu'on ne le connaît pas. Et pourtant, les accusations apparaissent déjà contre la politique d'accueil des réfugiés. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce lien qui est fait dans une partie de l'opinion publique entre ces violences et l'accueil des réfugiés d'Angela Merkel, Assem El-Yefraoui?
Oui, c'est-à-dire l'année dernière, on avait les incidents de Cologne, donc où de jeunes hommes de différents horizons, mais des immigrés pour la plupart, ont agressé de jeunes femmes. Et il y avait, d'une partie, il y avait un débat salutaire sur comment est-ce que l'immigration fonctionne, cette immigration de masse. De l'autre côté, il y avait clairement une campagne anti-Merkel, donc je ne veux pas citer de nom, mais de gens des médias allemands que je connais personnellement, très influents, ils ont clairement dit, voilà, là c'est le moment, Merkel elle a mené une très mauvaise politique au niveau de cette vague d'immigration qu'elle a tolérée, où il y avait aussi un énorme élan de solidarité de certains Allemands avec les réfugiés, qu'il faut dire. Donc c'était pour eux l'occasion de se dire, voilà, Merkel, on va la mener à sa perte à travers ça. Et c'est le même risque clairement aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un effet Cologne quelque part.
Surtout si il se révèle qu'à travers cet chemin des réfugiés, ou cette route des réfugiés qu'on appelle ça aujourd'hui, il y avait une douzaine de combattants, de terroristes de Daesh qui sont infiltrés en Allemagne. Et donc là, on va avoir un autre débat. Donc,
Bon, Assem El-Yefraoui, je dois préciser que vous devez nous quitter. Vous poursuivez votre route vers d'autres médias, notamment. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à l'émission. On continue.
Oui, je veux surtout prendre le train qui est très bien contrôlé d'un côté pour des raisons d'affichage.
Je vous libère donc. On continue cette discussion jusqu'à 19h avec Hélène Mire de la Croix et Michaela Vigel. Hélène Mire de la Croix.
Oui, je voulais préciser aussi qu'il y a bien évidemment la mémoire d'il y a un an, Sylvestre, enfin la Saint-Sylvestre, mais il y a aussi eu un certain nombre nombre de crimes qui ont eu lieu non seulement l'été dernier, rappelez-vous cette attaque à la hache dans un train en Bavière d'un jeune homme qui venait du bassin méditerranéen, et puis au mois d'octobre dernier à Fribourg, où une jeune étudiante de 19 ans a été violée, massacrée, assassinée par un jeune homme dont on a appris qu'il était un Afghan qui était arrivé en 2013 en Grèce, qu'il avait là-bas déjà attaqué une femme précipitée des falaises de Corfou, et qu'il avait pu circuler librement parce qu'il avait été libéré par les Grecs. Donc il y a actuellement, si vous voulez, il y a une grande émotion dans l'opinion publique allemande, et donc une disposition à entendre des schémas d'explication extrêmement rapides et simplistes. Voilà, agresseur égale non civilisé égale réfugié égale quelqu'un qu'on nous a envoyé pour nous faire du mal et que nous avons eu la bêtise d'accueillir. Là aussi, je mets des guillemets, mais c'est un petit peu l'émotion qu'il peut y avoir, et il faut y lire, je crois, c'est important, une tristesse et une déception chez beaucoup d'Allemands, parce que ça peut être interprété comme de l'ingratitude face à ce grand élan de solidarité qu'on a pu voir en Allemagne, et ce qui est aussi très injuste, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de réfugiés qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont appris l'allemand, qui réussissent à soit reprendre des études, soit apprendre un métier, et essaient de s'insérer dans le pays qui les a accueillis.
Et puis vous l'évoquez, Michaela Wiegel, il y a aussi la pression électorale qui va commencer à jouer. On est à 10 mois des législatives, législatives auxquelles Angela Merkel a déjà annoncé sa candidature. En quoi est-ce que ça joue? Est-ce que la question de l'immigration, de l'accueil des réfugiés est d'ores et déjà au cœur du débat politique allemand?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est au cœur du débat politique depuis un certain moment. Et il faut se dire que nous sortons d'une grande coalition, c'est-à-dire un peu comme vous en 2002, quand vous sortiez de quelques années de cohabitation. C'est-à-dire les limites entre droite et gauche sont assez floues. On ne voit pas très bien quelle est véritablement la différence. Et ça aussi, c'est un climat propice aux extrêmes. Alors, il faut dire que l'AFD, qu'on pensait la petite sœur gentille du Front National, a montré son vrai visage à l'occasion de cet attentat, parce que dans la demi-heure qui a suivi, le Markus Pretzel, qui est député européen d'ailleurs dans le groupe que préside Marine Le Pen, il a parlé, et j'avoue que j'en suis encore choquée d'en parler, il a parlé des morts de Merkel, et après ils ont envoyé des images vraiment choquantes des mains de la chancelière à plein de sang, et tout ça pour montrer à quel point on a aujourd'hui une extrême droite que rien ne sépare plus de, et je pèse mes mots, de la fachosphère, et donc c'est assez perturbant, parce que jusqu'à maintenant ce parti qui s'appelle en plus Alternative pour l'Allemagne essayer de ne pas trop s'afficher avec le Front National, parce que soi-disant le Front National était trop extrémiste pour ce parti. Et là on voit, et d'ailleurs le parti a publié un papier il y a 2-3 jours lors d'une réunion du parti pour dire on va faire des provocations ciblées pour attirer des électeurs, et malheureusement ce climat un peu de peur, parce que on sait que très vraisemblablement le coupable, le responsable de cet attentat court encore. Ce climat de peur est exploité d'une façon vraiment indigne par l'AFD, et il y a vraiment tout le reste de la classe politique allemande qui découvre cet extrémisme à l'occasion d'un événement qui devait plutôt nous forger ensemble pour justement se montrer qu'on reste solidaire. Je ne pense pas réellement que ça va casser ce bel élan qui existe toujours pour intégrer les réfugiés qui étaient accueillis. Je pense que ça émane vraiment des gens qui, de toute façon, ne voulaient rien faire pour aider ces réfugiés. Et donc, je ne crois pas, je crois que ça va plutôt renforcer l'attitude de ceux qui veulent avoir une séparation claire entre les attentats et ceux qui enfuient les bombes en Syrie pour trouver quelques années, le temps qu'il faut, un refuge en Allemagne.
Hélène Mière de la Croix, vous êtes également confiante sur le fait que les Allemands vont continuer à ne pas faire d'amalgame entre l'arrivée massive de réfugiés dans leur pays et puis la probabilité de risque d'attentat en Allemagne.
Oh oui, je pense qu'on peut faire confiance là à la grande majorité de la population allemande qui est raisonnable. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que d'une certaine façon, l'Allemagne a été un peu épargnée ces dernières années, ces derniers mois par rapport à ses voisines, France, Belgique en particulier, et que à l'époque, il y avait un regard allemand sur nous, par exemple en France, et où il y avait beaucoup d'explications à ce qui se passait en France qui tenaient la situation particulière de l'immigration en France, d'un pays post-colonial, de difficultés d'intégrer les jeunes issus de l'immigration, deuxième, troisième génération. Et d'une certaine façon, on peut avoir l'impression que beaucoup en Allemagne ont considéré que l'Allemagne était un peu épargnée de ce point de vue, puisque l'intégration était beaucoup mieux pratiquée. En effet, les jeunes issus de l'immigration en Allemagne, même s'il y a encore des groupes, si vous voulez, qui se soutiennent à part et qui ne veulent pas s'intégrer, et globalement beaucoup plus réussi qu'en France. Là, d'un seul coup, si vous voulez, ça ébranle ce schéma de lecture. Mais moi, j'aurais tendance à faire confiance dans le caractère raisonnable. Il n'empêche que, et ça, c'est ce qu'ont montré les dernières élections régionales, il y a une frange de la population, et on va arriver pas très loin des chiffres que l'on a dans les autres pays européens, c'est-à-dire entre 20, 25, 30% éventuellement, de personnes qui, pour des tas de raisons, se mettent à choisir l'alternative, entre guillemets, c'est-à-dire à corps de foi à ces amalgames et à ces raccourcis qui sont, honnêtement, ce genre d'acte hier, c'est du pain béni pour l'extrême droite. C'est ça qui est affreux. C'est du pain béni. Il y a une attaque d'un marché de Noël qui en Allemagne est en plus le marché du petit Jésus. Enfin, il y a tous les éléments. Je veux dire, ils se sont précipités dessus à la AFD. Le problème, si vous voulez, c'est que ce type de message donne des explications simples à une réalité complexe et qu'on sait très bien que tous ces populismes fonctionnent très bien auprès de ceux qui ont peut-être se sentent le moins armés pour comprendre le monde et qui, pour d'autres raisons, se sentent laissés sur le bord du chemin, maltraités, ce qui est objectivement parfois le cas, mais qui peut aussi ne pas l'être. Et c'est pour ça que c'est très très difficile à traiter. Mais ça veut dire que il va falloir, là, dans la campagne électorale, bien nommer les choses et bien montrer qui est démocrate et qui ne l'est pas. Attention, la campagne électorale en Allemagne, elle n'est pas seulement pour le mois de septembre. Il y a trois élections régionales importantes qui ont lieu au printemps. Et l'AFD a fait sa percée lors des élections régionales du printemps dernier.
Alors, au-delà de l'AFD, hein, l'extrême droite allemande, il existe aussi une pression hein, sur la question migratoire de la part de certains alliés d'Angela Merkel pour fixer des plafonds, des quotas à l'accueil des réfugiés. Michaela Wiegel, est-ce que vous avez l'impression, depuis notamment les quelques revers électoraux subis par Angela Merkel, qu'il y a un infléchissement de sa politique d'accueil, ou bien c'est pour l'instant juste dans le discours, voilà où on en est du fameux Wir schaffen das, nous allons y arriver, d'Angela Merkel?
Ah oui, là, on a déjà eu l'inflexion lors du dernier congrès du parti. On a déjà vu que, justement, on n'est plus du tout dans la même veine où c'est juste via Schaffnet. C'est vraiment maintenant, on va reprendre le contrôle. On va essayer de faire au mieux avec ceux qu'on a accueillis et on reste ouvert pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais on a toute la question aujourd'hui du contrôle des frontières, elle est reposée. Je pense d'ailleurs la réponse allemande, elle sera plus dans le sens comment on peut mieux contrôler nos frontières communes extérieures que dans l'état d'urgence à la française. Je pense que c'est plus une démarche qui ressemble à ce que nous pensons. La CSU, effectivement, donc le petit allié bavarois de la CDU fait déjà depuis un moment pression, mais c'est aussi à la CDU même aussi que Merkel est mise à l'épreuve. Et donc il y a maintenant un volet très contrôle. Ceux qui ont le droit de rester, on les accueille bien, mais les autres, ils doivent vraiment partir, et on fait tout pour mieux gérer justement ces départs, parce que comme un peu partout en Europe, on n'arrivait pas très bien à faire partir ceux qui n'avaient pas le droit de rester. Et ça, à mon avis, ça va se renforcer, oui.
Hélène Mire de la Croix, un changement de cap à attendre de la part d'Angela Merkel?
Alors, pas. Je suis tout à fait Michaela Wiegel dans son analyse. En effet, ce qui est intéressant et ce qui est assez débattu actuellement, c'est le rôle que joue Horst Seehofer, qui est le patron de la CSU, donc de l'aile bavaroise de la démocratie chrétienne, qui est très critiqué parce que ça fait déjà des mois, ça fait un an à peu près, qu'il dit qu'il faut mettre un plafond. C'est la fameuse formule du plafond, qu'on n'aurait pas dû ouvrir les portes aussi largement. Et il avait au départ parlé de la situation spécifique de la Bavière, parce qu'il faut bien voir aussi que ces questions doivent être d'abord gérées par les Länder.
Plusieurs attaques ont eu lieu en Bavière.
Voilà. Et il est très critiqué encore aujourd'hui. En même temps, et là aussi on peut prendre un petit peu de recul historique, c'est intéressant de voir comment la CSU et Horst Seehofer jouent ce rôle à l'intérieur du camp démocratique de celui qui est un petit peu plus rigoureux, un peu plus sévère, un peu plus exigeant, reprenant d'une certaine façon la tradition de ce qu'était la CSU à l'époque de Franz Josef Strauss, partant du principe que il ne devait rien avoir à droite de la CSU. C'est-à-dire que la CSU devait être capable d'avoir un discours suffisamment raide et rigide, et un petit peu droitisé, pour pouvoir conserver dans le camp des démocrates ceux qui avaient besoin d'une politique un peu à poigne. Je trouve que c'est intéressant d'observer comment ça se passe en Allemagne, et peut-être que Horst Seehofer, avec ce type de discours, peut reprendre des voix à ceux qui pourraient être tentés par l'extrême droite populiste qui, là, pour le coup, n'a pas de programme en dehors, pas de programme comme la plupart de ces partis populistes européens, dont les programmes, d'un point de vue économique en particulier, ne tient absolument pas la route.
Alors qu'il est, malgré l'attentat d'hier soir, les autorités ont décidé de ne pas annuler la plupart des festivités de fin d'année, la fête de Nouvel An notamment, et puis les fêtes de rue importantes au moment du passage au Nouvel An. C'est une manière de ne pas céder à la peur, Michaela Wiegel.
Oui, je crois que là, l'essentiel, et notre président l'a dit avec des mots très clairs, l'essentiel, c'est que nous ne cédons pas à la panique aujourd'hui, et que l'Allemagne peut être forte dans ces moments d'épreuve, comme la France a été très forte. Et je crois que ça, c'est un très joli message européen, que nous savons nous rassembler face à ce défi terroriste. Et encore une fois, il faut être extrêmement prudent. On ne sait pas si c'était un attentat islamiste.
Eh bien, merci beaucoup. Information qui devrait arriver, on espère, dans les journées à venir. Merci beaucoup, Hélène Mire de la Croix. Je rappelle, professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Merci également à vous, Michaela Wiegel, journaliste correspondante en France du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et puis, merci à Assiem Eldifraoui qui était avec nous sur le début de cette émission. Demain, vers la fin des adoptions à l'étranger, c'est la question dont nous débattrons. En attendant, la réécoute, le podcast, les commentaires, c'est sur franceculture.fr, sur la page Du Grain à Moudre. Vous pouvez aussi bien sûr suivre notre fil Twitter. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Antoine Tricot, Fanny Richer, Isulte Sicard, Céline Leclerc et Cyril Baer, que je remercie tous chaleureusement pour ce changement d'émission ce soir. Émission réalisée par David Jakuboviez, prise de son ce soir, Clément Daté.